Vous écoutez toujours Radio Monobloc et nous sommes toujours au Café de la Traverse à Saint-Cyprien. Fabienne est restée avec nous et nous a rejoint autour de la table. Jean-Paul Auriac, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints. Vous disiez que cette version de la Coulobre était une des plus belles que vous ayez entendues. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ?
Alors oui, c'est vraiment étonnant parce que bon, l'histoire du Coulobre, elle est très connue en Périgord depuis bien longtemps. Et la version que l'on vient d'entendre est la plus belle que j'ai jamais entendue. Alors, quand on sait qu'elle sort des banlieues, on a envie de lui tirer un grand coup de chapeau.
Oh, merci. Merci beaucoup.
Alors, j'ai des petites choses à dire au sujet de ce fameux Coulobre. Tout d'abord, j'ai appris assez récemment qu'il semble que ce Coulobre-là ne s'attaquait pas à n'importe qui, s'attaquait aux bateliers, mais pas à tous. Il paraît qu'il s'attaquait uniquement aux méchants, aux mauvais. Et ça, c'est un petit peu rassurant. Et puis, il y a quelques années, je suis passé au pied de la colline avec deux Amérindiennes. Et je leur ai expliqué, là-haut, on a le dragon, on a le Coulobre. Elles m'ont dit, mais tu sais, pour nous, le dragon, c'est un animal plutôt bénéfique. Et elles m'ont demandé de m'arrêter. Et elles ont fait une offrande de tabac, ce qui est traditionnel chez les Amérindiennes. Elles ont fait une offrande de tabac à notre Coulobre.
Alors Jean-Paul Auriac, vous, des histoires, vous en avez entendu énormément, puisque dans les années 80, vous avez enregistré des anciens et des anciennes de la région. Est-ce que vous voulez nous raconter comment et pourquoi vous les avez enregistrés ?
Eh bien, au départ, il y avait un vieux monsieur dans mon village qui allait s'asseoir avec les anciens. Il était aveugle sur la fin de sa vie. Il allait s'asseoir sur les bancs avec les anciens et il les faisait parler. Et ce brave homme a collecté des légendes tellement anciennes que certaines ont donné leur nom à des villages. Et moi, j'étais parti à Paris, j'étais journaliste de troisième zone à Paris et je m'emmerdais. Et un jour, j'ai décidé de rentrer au pays. Je me suis dit, dans le fond, tous ces anciens savaient tellement de choses qu'ils racontaient aux veillées et malheureusement, un jour, ils disparaîtront, ça va se perdre. Et je suis parti avec un vieux magnétophone sur les chemins, dans les villages, et comme j'étais fils d'agriculteur, j'étais pas le gars qui arrivait de la ville pour leur piquer leur truc, ils ont accepté de parler. Au début, ils disaient, mais oh, c'est des bêtises, ça intéresse personne. Je disais, mais si. Et finalement, ça a été assez fabuleux, quoi. J'ai recueilli des tas et des tas et des tas d'histoires. Alors au début, ce qui les avait fabulés, c'était les loups, parce que c'était leur quotidien.
Alors je vous propose à ce propos qu'on écoute tout de suite un premier son, un de vos enregistrements, donc il faut tendre l'oreille, ce sont des archives, mais on écoute une des histoires que vous avez récoltées.
Ah, et mon grand-père qui allait jouer comme ça, le dimanche, ou le samedi au soir ou le dimanche, là il voyait, il aimait pas s'en aller tout seul, mais s'il s'en allait tout seul, il voyait toujours quelque chose de lumière. Ces lumières, c'était les yeux du loup qui faisait une lumière et qui le surveillait. Alors lui, il ne fallait pas qu'il s'assoie ni qu'il tombe. Il le suivait. Mais il passait un village, il ne le voyait plus. Quand il arrivait de l'autre côté du village, du Jartrisseau, qu'il arrivait du côté du château de Bernicot, il le voyait aussitôt le village passer. Et après, le loup, il s'en allait faire un grand tour. Il ne voulait pas passer dans les maisons. Il passait plus loin, alors il arrivait plus loin, il le voyait encore. Il avait fait le détour pour l'attendre plus loin. Et là, il le suivait presque jusqu'à la maison. Mais d'autant plus qu'il ne s'arrêtait pas à risquer de tomber. Et puis quand il avait trop peur, il jouait la manivelle, le violon ou l'accordéon, je ne sais pas ce que c'était. Il dit, là, je leur faisais un peu peur. Mais une fois, il dit, j'étais fatigué, ça faisait loin. Voilà qu'il s'est assis, mais il s'endormit. Tout d'un coup, il a senti quelque chose qu'il couvrait avec des feuilles. Ça l'a fait, bien sûr, ouvrir les yeux, comme on dit. Et là, il a vu que c'était le loup. Il s'est redressé, mais c'est qu'en attendant, le loup avait appelé les autres. Et il avait hurlé quand il avait mis des feuilles. Tant qu'il me remuait les feuilles, il tenait ça. Il a dit, je vais jouer. Mais, attends, il a entendu le loup qui a été hurlé, il s'est levé. Et puis là, il a vu arriver tout un tas de loups.
Alors des loups, il n'y en a plus dans le Périgord, quoique. mais peut-être de passage. En tout cas, on se demandait, quand on a écouté ce son-là, s'il y en avait vraiment beaucoup ici avant.
Oui, il y en avait énormément, énormément. Et alors, je vais terminer cette histoire, parce qu'elle n'a pas été jusqu'au bout. Le brave musicien se réveille, parce qu'en fait, le loup, il l'avait couvert de feuilles, il l'avait pissé dans l'oreille. C'est ce qui l'a réveillé. Il se réveille et il voit tout un tas de loups autour. Alors la panique, il y avait un arbre à côté, il monte à l'arbre. Alors la première version, il se sent foutu parce que les loups commençaient à gratter le tronc de l'arbre. Il se dit « je suis foutu ». Mais il dit « foutu pour foutu », il dit « je vais jouer de ma chabrette ». Et puis il a joué et le son aigrelé a énervé les loups. Ils ont commencé à se battre entre eux et finalement ils sont partis et il a pu rentrer. Ça c'est la version tout à fait sympathique. La deuxième version... Pareil, il monte à l'arbre et il a tellement peur qu'il laisse tomber sa chabrette. Et là, comme bon, c'est un instrument avant, il y a une poche d'air. Quand la chabrette est tombée au sol, ça a fait couac et les loups ont filé. Alors la dernière version, c'est bien sûr la moins glorieuse. Les loups ont commencé à grimper, à se faire la courte échelle pour grimper à l'arbre. Et j'ai une gravure ancienne dans mon livre, on voit les loups qui montent à l'arbre. Et alors là, il a complètement paniqué, il a pissé au froc, et c'est la pisse qui est tombée sur les loups et qui les a fait fuir.
C'est intéressant parce que vous nous expliquez qu'il y a donc plusieurs versions de cette histoire. Pour autant, les personnes qu'on entend parler dans vos enregistrements souvent parlent d'histoires qui sont arrivées à leur grand-père, à leur arrière-grand-père. Et il y a un lien aussi avec les contes que Fabienne dit, c'est que ces histoires qui nous semblent légendaires ou qui nous semblent être des contes sont racontées comme des histoires vécues par les personnes que vous avez enregistrées.
Absolument. Certaines des histoires, effectivement, la brave dame qui avait déjà 90 ans au début du siècle dernier... parler de son père ou de son grand-père et d'endroits précis. Et c'est des choses qu'on raconte aux veillées. Bon, je veux bien croire qu'aux veillées, on picolait un petit peu, qu'ils en rajoutaient un petit peu. Mais dans l'ensemble, oui, c'est arrivé à des gens de ces villages.
Alors justement, il y a des histoires autour de soirées un peu arrosées aussi dans l'histoire qui suit. C'est celle d'une femme qui raconte que son voisin, pendant la guerre, était loup-garou. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus avant qu'on l'écoute ?
Alors, Le loup-garou, bien sûr, c'était traditionnel en Périgord. Dans la forêt du Landais, qui est donc entre la Dordogne et l'Isle, j'ai récolté quelques récits de loup-garou, mais pas très précis. Et c'était plutôt des trucs rigolos, mais pas très précis. Par contre, quand je suis monté de l'autre côté de l'Isle, dans cette forêt de la Double, qui est un peu comme la Sologne, mais en plus vallonnée, avec des forêts, des lacs, des forêts, des lacs, et c'est très sauvage, et là, il y avait des histoires vraiment de gens qui apparemment avaient vécu des choses. Ce n'était pas uniquement des trucs qu'ils avaient entendus.
Alors, on écoute cette histoire et après, on en parle.
Quand ils revenaient de faire leur tournée, alors, ils étaient toujours un peu égratignés. Alors, les voisins comprenaient de suite qu'il avait été faire sa tournée. Je le dis, 9 communes, paraît qu'il fallait qu'il fasse... pour une pénitence alors du don qu'on lui avait donné. Sans doute, je ne vois pas.
Et alors, c'est lui-même qui disait...
Oh, il ne leur disait pas, mais eux leur disaient, les voisins disaient, qu'est-ce que tu as fait ? Ils ne voulaient pas que ça soit dit. Mais quand il les faisait ennuyer, qu'il leur montait sur les épaules, des fois, ils disaient, tu es un messie. C'est toi qui m'as fait ça, lui disait. C'est toi qui m'as grimpé sur les épaules l'autre soir. Alors il disait, eh bien tu as été bête, tu n'as pas su seulement me guérir. Pour 9, soi-disant qu'ils auraient été guéris pour 9 ans.
Et après 9 ans, ils auraient
rencontré. Ah, ou bien alors la première fois, s'ils avaient été. Il fallait qu'ils le blessent un peu, pas beaucoup, mais que le sang sorte.
Mais alors quand il leur grimpait sur leurs épaules, il ne leur faisait pas de mal.
Ah non, et ils cherchaient au contraire à leur faire des caresses comme un chien fait à un autre chien, vous voyez. Oui. Oui, on se dit, il nous léchait là, la figure, alors on avait beau lui faire un coup de poing, si elle a mal, on était... il comprenait que c'était un homme comme ça, mais il doutait toujours, parce qu'il disait c'est le voisin ou c'est. Vous savez. Et oui, il y avait des sorcilèges là que. Ils n'ont jamais bien compris, quand même. Ils ont toujours blâmé les curés. Que n'importe, comme ça, ils disaient, ah ben c'est que peut-être il a été baptisé avant la messe. Alors le curé s'est déchargé de ses péchés. Sur... Je ne sais pas si c'est vrai, tout ça, vous savez. On avait la... Les vieux avaient la croyance. Et ils nous racontaient ça. Ça nous faisait peur, quand même, nous autres, quand même. On n'osait pas sortir si on voyait quelque chose, vous savez, si.
Alors cette histoire, elle rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, sur la frontière entre la réalité et la légende. Et cette personne, on sent bien que quand elle en parle, à la fois, ça l'amuse énormément. Et en même temps, elle raconte qu'elle en avait vraiment peur quand elle était petite. Et du coup, on se demandait un peu quelle place avaient ces personnages dans les villages. Et si cette personne qu'on prétend qu'elle était un loup-garou jouait aussi elle-même un peu ce rôle, et donc quelle était la part de croyance dans tout ça?
Alors ça, c'est l'histoire la plus étonnante. Je vais vous raconter après l'histoire classique, traditionnelle qu'on raconte dans cette région de la Double. Et la dame me l'avait raconté, puis après elle me dit « Ah non, non, ça, il ne faut pas que je le dise. » Je dis « Ah bon ? Mais c'est que vous comprenez, il y a encore de la famille. » Alors je lui dis, mais je viens de loin, moi je ne les connais pas, je viens de l'autre côté de la rivière, je ne les connais pas. Alors elle a fini par me raconter cette histoire-là. Et c'était arrivé à son voisin, avant la guerre de 14. C'était son voisin qui était supposé, dans le village, être loup-garou, parce qu'il avait un comportement curieux, quoi. Il racontait des trucs qu'il n'avait pas pu voir dans la journée. Il travaillait avec les autres et il n'avait pas pu voir ce dont il parlait. Et donc c'est pour ça que les vieux l'avaient suivi. Un soir de pleine lune, et au retour, le lendemain, ils disent « Alors, t'as été courir encore ?» Et c'est là qu'il a dit « Mais c'est extraordinaire le fait qu'il ait assumé le rôle, qu'il ait dit « Mais si vous m'aviez blessé, que le sang aurait sorti, j'aurais été délivré. » C'est quand même fabuleux qu'il ait assumé le rôle. Mm-hmm. Alors, pour ces histoires de loup-garou, moi qui suis naïf, je me disais « Mais dans le fond, j'avais la chance de connaître quand même pas mal de peuples indigènes des différentes parties du monde. » Je lui dis, bon sang, partout dans le monde, cette transmutation homme-animal est classique, sauf chez nous en Europe, à l'exception de ce ridicule loup-garou diabolisé par l'Église catholique. Et je me disais, mais dans le fond, est-ce qu'à l'origine, le loup-garou ne serait pas un chaman? Bien sûr, je n'osais pas trop le dire, parce qu'ici, en Dordogne, nos préhistoriens, ils sont sérieux. Mais... Et... Jusqu'au jour où j'ai rencontré un médiéviste de la Sorbonne, qui a bien voulu écrire la préface de mon premier livre, et qui, au cours d'une soutenance de thèse, a dit carrément « Les loups-garous étaient des chamans ». Je lui ai dit « Bon, si le prof le dit, je peux le dire ».
Mais alors, dans cette histoire, il y a aussi la place étonnante du curé. Qu'est-ce que c'est cette histoire de baptême, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces mélanges aussi entre l'Église catholique et des croyances, des légendes ou des histoires qui seraient arrivées à des voisins pendant la guerre de 14?
Il faut dire qu'autrefois, depuis bien longtemps, pour l'Église catholique, tout ce qui était la forêt, c'était le domaine du diable. Et c'est pour ça qu'il faisait. Il y avait les essarteurs qui, autour des abbayes, etc., défrichaient, pour repousser le domaine du diable. Et tout ce qui était dans la forêt, c'était diabolique. Donc tout ce que les anciens, ils allaient honorer les sources qui pour eux étaient sacrées, etc., ou certains arbres, pour l'Église catholique, tout ça, c'était le diable, tout simplement. Et alors l'histoire du curé, bon, c'est superbe, parce que bon, s'il avait couché avec sa bonne ou un truc comme ça, il fallait absolument qu'il se purifie avant de bastiner l'enfant. Et la dame, elle m'a dit, mais vous savez, il y a 50 ans encore ici, on n'aurait pas fait baptiser un enfant avant que le curé ait dit sa messe, pour être sûr qu'il ne lui transmettait pas ses péchés, pour pas qu'il devienne loup-garou.
On écoute peut-être le troisième son, qui est une histoire un peu plus sombre. Peut-être juste on l'écoute et on en parle après.
Et l'histoire que vous m'avez racontée, qui s'était passée à Léger, à côté de...
Oui, ça je m'en souviens plus bien, parce que vous savez, jamais on a bien appris, mais je sais que ce grand-père, il avait été bien ennuyé, lui-même, pas ennuyé, parce que au contraire, cette jeune fille qu'ils ont pris pour loup, alors, qui était sous la charrette, dans la cour, qui mordait les chiens. Elle se mordait avec les chiens. Alors, mais c'était comme un chien. Ils ont dit, attends, ils appelaient leur chien, mais les chiens, ils s'en allaient pas, ils lui aboyaient, et puis toujours. Alors là, il a pris le fusil, sans penser à ça, il a tiré bien, sans doute, dans la direction, et ça restait là. Mais il a cru d'avoir tué un chien ou un loup. Le lendemain matin, sous la charrette, les chiens s'étaient en allés, mais c'est là qu'il y était. Et je vous dis que lui, il s'embêtait. Qu'est-ce qu'on va faire? Pardi. Quand ils ont été le dire au maire, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il avait mis dans la grange, puis couvrait là et on va voir. C'est des choses comme ça qui va. Parce qu'elle avait des bijoux, vous savez, elle était des ornements tout pleins, ils n'avaient rien touché. Alors quand, sans doute, ça s'est dit, puisque la famille est venue, enfin la famille leur a fait dire, qu'elle viendrait, et quand ils ont vu, ils ont dit, écoutez, vous n'aurez jamais de peine, au contraire, on veut vous faire des cadeaux. Et je crois qu'ils lui avaient donné de l'argent, même que mon grand-père, enfin l'arrière-grand-père, ne le voulait pas. Mais là, c'était une jeune fille qui venait, vous voyez, c'était la commune de Chauniac, où elle avait été tuée, ils sont venus la chercher, mais elle était de Vertillac à ce moment-là, que vous savez, il n'y avait pas d'auto comme maintenant. Alors là, mais c'était encore une princesse, alors c'était déjà très riche, et ils savaient comme elle était, ils le savaient. Alors ils ont dit, on sait comme elle est, ceux qui vous sont arrivés, ils ont qu'à le signaler. Pensez qu'il avait dit au maire, que ça a été vite fait. Puis ils sont venus en effet la chercher, ils ont dit, oh, on vous admire quand même. Oh, ils ont dit, monsieur, on n'allait pas la faire disparaître, avec tous les ornements qu'elle avait. On a compris que, mais qu'est-ce que vous voulez, on l'a vu. Mais il disait toujours, on sait comme elle était. On sait comme elle était. Alors il savait très bien qu'elle se mettait à loup alors, qu'elle faisait peur aux chiens. C'est que les chiens avaient peur d'elle. Et elle était comme un loup. Mais quand ils l'ont trouvée le lendemain matin, elle avait ses habits de jeune fille, de demoiselle. Et tout.
Là encore, dans cette histoire, Jean-Paul Auriac, c'est l'arrière-grand-père. On ne sait pas très bien distinguer entre l'histoire et la légende, mais c'est aussi la jeune fille qui a l'air d'occuper une place particulière dans ces histoires de loup-garou. Est-ce que ce sont des histoires qui sont destinées à faire peur aux jeunes filles aussi ?
On essayait d'effrayer un petit peu les jeunes filles les soirs de pleine lune. On leur déconseillait d'aller courir une fois la nuit tombée, c'est certain. Mais dans cette histoire, il y a une suite. La jeune fille, donc, qui a été tuée en tant que loup-garou, a été enterrée dans une petite chapelle, dans un petit hameau, non loin des Chauriac, dans la Double. Et j'ai demandé, quand j'ai écrit mon deuxième livre, je crois, j'ai demandé au propriétaire si on pouvait aller faire des photos de cette petite chapelle. Il a accepté et il m'a dit à condition que vous ne disiez pas où c'est. Donc ok, on y est allé, on est arrivé, on a rencontré le propriétaire, très gentil, et il avait une petite chienne louve, toute jeune, toute mignonne, une jolie chienne, toute un peu foufolle. Mais quand on a commencé à se rapprocher du fond du parc, où était la petite chapelle, la petite chienne a commencé à s'énerver et à me mordre les talons. Rien qu'à moi, pas aux autres, pas aux photographes, pas... C'était curieux. Enfin, on a réussi à arriver jusqu'à la chapelle, à faire la photo. On est reparti, ça allait mieux. Après, elle était tranquille. Enfin, c'est quand même étonnant. C'est comme si elle avait voulu nous empêcher de faire la photo de ce lieu où était la soi-disant louve garoute.
Vous aussi, entre la vérité et la légende, vous ne savez pas très bien.
C'est difficile.
Mais je pense qu'à un moment, ça c'est les croyances. À un moment, les croyances rattrapent la réalité et la réalité rattrape les croyances. Et voilà, et on se transmet en fait, je sais pas, c'est l'histoire du Père Noël, quoi. À un moment donné, ça perdure. Par contre, j'avais une question, si je peux.
Avec plaisir.
Pourquoi si peu de femmes loups-garous et de jeunes filles? Parce que c'était plus pour prévenir finalement les femmes, les jeunes filles de la nuit, des promenades. Mais c'était quand même beaucoup des loups-garous hommes.
Il y avait les deux.
Autant ?
Dans mes témoignages, il y avait autant de femmes que d'hommes.
D'accord, j'avais lu que... Ok.
Et alors, pour en revenir à quelque chose de beaucoup plus tragique et beaucoup plus récent, il y a eu un fait divers assez terrible qui s'est passé en Périgord, l'histoire de l'assassin de la pleine lune, dans les années 80. Et il y avait, la police ne voulait pas en parler, mais autour de Bergerac, il y avait quelqu'un qui attendait, en particulier les femmes, à la tombée de la nuit devant leur maison, qui les agressait, etc., qui délirait complètement. Ça a été plus ou moins caché, jusqu'au jour où le personnage en question est allé dans un château à côté de Bergerac et il a tiré en direction du propriétaire de l'endroit. Et donc là, du fait que quelqu'un avait été blessé, ça s'est dit et ça fait un énorme bruit. Et il y a eu une panique à ce moment-là. Les gens ont parlé parce qu'il y avait des gens qui avaient été attaqués autour de Bergerac et dans la ville. Et ça s'est dit, ça a parlé, etc. Le problème, c'est que le loup-garou, enfin du moins l'agresseur, ressemblait fortement, du moins le portrait robot ressemblait à un chauffeur de taxi de Bergerac qui avait été le chauffeur de taxi du tournage du film qui s'appelait le Fou de Bergerac, qui était une histoire, un des Maigret. Ça avait été tourné à Bergerac et ce garçon était le chauffeur attitré du tournage. Et donc, comme il ressemblait beaucoup au portrait robot, un matin, les gendarmes sont arrivés au café de la gare, ils ont embarqué devant tout le monde, ils ont embarqué le gars. Alors ça a été un cri dans la ville. C'est lui, ça y est, on l'a trouvé. Bon, il était relâché quelques heures après, parce qu'évidemment, il avait un alibi, c'était pas lui. Mais ça a été une horreur dans la ville. Sa femme était agressée, frappée dans les magasins, insultée. Les gosses à l'école, pareil. Ça a été une horreur absolue. Au bout d'une semaine, un ancien policier s'est rappelé d'une histoire qui s'était passée en Charente avec un gars qui habitait du côté de Brantôme et qui avait attaqué une femme, etc. Et il a contacté les policiers en charge de l'enquête. Il a dit, mais vous avez vérifié ce gars-là ? Ils ont été chez lui, ils ont retrouvé la carte bleue de la dernière femme chez qui il avait été. Il avait été dans une maison sur les Hauts de Bergerac et il avait attaché, coincé toute la famille. Et le fils avait réussi à téléphoner à l'ami de cette femme qui avait senti qu'il se passait quelque chose de bizarre. Il est arrivé à fond la caisse et quand il est arrivé à la porte de la maison, le gars était là et il l'a tué à coups de couteau. Et c'est très curieux parce que moi, je me trouvais, c'est une petite histoire, mais je me trouvais à 200 mètres de là, dans la résidence à côté. Et avec mes amis, on se sentait pas bien, on était énervés, c'était bizarre. Alors le lendemain, quand on nous a montré l'endroit où il avait été tué, ça faisait un drôle d'effet.
Les loups-garous existent toujours.
Mais oui, vous étiez journaliste à l'époque et vous couvriez cette histoire de l'assassin de la pleine lune. Ce surnom qui lui a été donné, il montre du coup la façon dont continuait dans l'imaginaire à faire peur le loup-garou.
Et alors, le jour où il est arrivé au tribunal de Bergerac, il y avait une foule énorme devant le tribunal, il est sorti d'une voiture de police et il a couru en montant les marches avec une veste par-dessus la tête. C'était exactement... Il y a des vieux qui ont dit « Cause un loup-garou, c'est un loup-garou ». C'est vrai que ça rappelait tout à fait ça. Et le fait qu'il agisse en période de pleine lune, ça a bien sûr interrogé.
Et pour finir, on voulait vous demander si vous pouviez nous raconter cette légende d'une jeune fille qui raconterait pourquoi il y a des lieux de culte à certaines intersections de rivières.
Ah oui, ça c'est une très belle histoire qui se passe dans mon village. Et c'est la fille du seigneur du village qui était amoureuse du petit seigneur du village à côté, qui était comme par hasard l'ennemi mortel de son père. Alors un jour le père part à la chasse avec ses soldats, elle en profite, elle se cache sous une armure pour aller voir son copain. Manque de bol, le copain il était aussi parti à la chasse. Et donc, toute piteuse, elle revient dans ce sentier le long du ruisseau. Mais c'est qu'au bout d'un moment, elle entend les chevaux galoper. Elle dit, ça y est, la chasse revient, elle se cache dans un fourré. Manque de bol, il y avait du soleil. Et en reflet du soleil sur l'armure, ils l'ont chopé. Ils l'ont ramené à Castelmoron, mon village. Et le père s'est bien rendu compte que, ben, vu l'endroit où il l'avait trouvé, qu'elle venait de chez son copain. Fou de rage, il l'a enfermé dans la prison, dans un cul de basse-fosse, dans la prison du village. Il se trouvait que le bon Saint-Martin était dans le coin. Ils vont le prévenir. Le bon Saint-Martin descend dans la prison et d'un coup d'épée, il casse la porte. La jeune fille sort, mais le méchant seigneur avait passé un pacte avec le diable. Et donc la jeune fille s'est transformée en une rivière souterraine qui est partie sous le village pour aller sortir 3 kilomètres plus loin. Alors évidemment, tout le monde était piteux. Le jeune homme va voir Saint-Martin et il lui dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et Saint-Martin lui dit « Tu sais, ça c'est de la magie, c'est trop fort pour nous. » Et donc ils sont allés tous les deux à la sortie de la rivière souterraine, un endroit qu'on appelle le Trou Noir, un très bel endroit. Et là il dit il faut qu'on appelle Merlin. Et donc il a invoqué Merlin. Plop, Merlin est arrivé. Il a pris une petite baguette de coudrier, il a tapé sur l'eau et la jeune fille est arrivée. Alors les deux jeunes, bien sûr, ils étaient tout contents, mais le Merlin leur dit « Eh, vous restez pas là parce que le méchant seigneur, il est toujours là. » Alors, il a tapé avec sa baguette sur un arbre qui s'est transformé en une petite barque avec un rameur. Et il leur a dit « Chaque fois que vous changerez de cours d'eau, vous penserez à moi. Vous penserez à Merlin. » Ils ont pris le petit bateau, ils sont partis sur le cours d'eau, ils sont arrivés au ruisseau plus important qui s'appelle le Ségur, l'Ouchégur. Ils ont pensé à Merlin, clac. La barque a doublé de grandeur de rameurs. Ils sont arrivés à la rivière, le Drô, 4 rameurs. Et ils sont arrivés à la Garonne, 8 rameurs et une grande barque. Ils sont passés devant Bordeaux, la nuit tombée, et ils sont arrivés à Blaye, puisqu'il se trouve que le jeune homme était le fils du prince de Blaye. C'était un Rudel, Élie Rudel. Et donc l'histoire qui a été raconté de génération en génération, parce que ça a été uniquement transmis de façon orale. Et c'est extraordinaire parce que moi j'ai recherché s'il existait dans l'histoire les deux personnages dont il était question, et j'ai retrouvé donc Élie Rudel, et j'ai retrouvé Yolande de Lusignan. Et quand on sait que la famille de Lusignan, c'est supposé être la famille de Mélusine, c'est... Voilà, ça ouvre des perspectives. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que, bon, là, l'histoire récoltée se termine là. Ils ont été heureux, ils ont eu des enfants. Moi, j'ai prolongé cette histoire d'après la tradition celtique. J'ai dit, à leur grand âge, une nuit, un bateau est venu les chercher dans le port de Blaye et les a amenés vers les îles où nous irons tous quand le temps sera venu pour nous.
Merci beaucoup Jean-Paul Auriac. Merci Fabienne.
Merci à vous.
C'était un plaisir.